Et vous êtes toujours dans la rubrique info, et c'est moi, salut Baptiste, qui vais participer à l'émission de Romain, Indiwa en Transat. Salut Romain.
Salut.
Romain, tu proposes donc ce moment d'aventure à travers l'Atlantique en bateau.
C'est ça, on fait depuis maintenant quelques semaines un petit podcast sur mes aventures. Et habituellement, on le faisait avec Mallory et Jeanne,
ah ouais.
Mais qui aujourd'hui ne sont pas là, sont à Dieppe pendant que nous, on est à Luc.
Donc, je leur rends place. On va découvrir ce petit moment, alors.
Bah ouais, et puis, bienvenue à toi dans le podcast. Et puis, je peux Merci. Te faire un petit résumé, peut-être. Et puis, même pour nos auditeurs qui n'ont pas.
S'il te plaît.
Qui ne sont pas à jour.
Attendez
donc, j'avais réalisé en juin de l'année dernière une transatlantique depuis Le Marin jusqu'en métropole, Sanary-sur-Mer, Le Marin en Martinique, pardon, effectivement, jusqu'à Sanary-sur-Mer. Et donc, ça avait pris un mois et demi. Et puis là, on en était au tout début, puisqu'on était au dernier jour avant de quitter les Antilles. Donc, on avait remonté les Antilles depuis la Martinique en passant par les Saintes, puis la Guadeloupe et Antigua et au final Barbuda. Et puis on s'était laissé là-dessus la semaine dernière à Barbuda, la dernière nuit. Et puis le lendemain matin, c'était le départ.
Donc là, c'est le moment où tu vas rentrer dans le dur, là.
Ouais, c'est ça, exactement.
Plus d'île pendant un moment.
Non, exactement. Ouais. On est parti. Là, la prévision, c'est 15 jours sans voir la terre et ensuite arriver aux Açores, du coup, au Portugal, des îles du Portugal qui sont d'ailleurs magnifiques. Spoiler.
Teaser.
Ouais.
Tu nous raconteras donc les Açores plus tard.
Oui, effectivement.
Alors, 15 jours de désert.
Ouais, c'est ça. Et en fait, ça sera même un peu plus. Mais ça, pareil, je tease un peu. Mais... Et puis, on peut y aller. Alors.
Alors, on peut rappeler quand même aussi le contexte, c'est-à-dire que toi, sur ce bateau, t'as écrit beaucoup.
Oui, alors oui, effectivement, là, je raconte ma transatlantique, mais via en fait des écrits que j'ai fait pendant, donc qui étaient des posts à destination des réseaux sociaux pour Instagram et Facebook, où je partageais donc ce qui m'arrivait quotidiennement, et c'était à destination de ma famille et des amis, et puis de plus si jamais c'était partagé, ce qui est un peu le but aujourd'hui du coup avec le podcast, que vous pouvez d'ailleurs retrouver bientôt, prochainement, sur rdiwa.fr. Il y aura une page, une émission, et puis chaque podcast. Donc si vous prenez l'émission en cours, vous pouvez toujours rattraper votre retard.
Bientôt.
Bientôt, très bientôt. Ouais. Je pense juste après, là, je vais le faire d'ailleurs.
Et d'ailleurs, du coup, j'en profite pour dire que, pour te demander, tout le long où tu étais dans les Antilles, finalement, tu pouvais poster presque quotidiennement, ce qui, là, va plus être le cas.
Alors, en fait, si, puisqu'on avait un truc très pratique et très sympa, qui s'appelle Starlink. Maintenant, c'est un peu moins... on a moins envie de dire que c'est sympa.
Ouais. Cœur avec les bras.
Ouais, c'est ça. Mais non, à l'époque, le gars qui avait inventé ça n'avait pas fait de salut nazi et puis n'avait pas soutenu un mec d'extrême droite pour arriver au pouvoir. Donc ça allait encore. Mais effectivement, donc Starlink, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un réseau satellitaire qui permet d'avoir Internet partout sur le globe. Et du coup, sur notre bateau, au milieu de l'Atlantique, on avait Internet. Donc, que tu ne peux pas utiliser illimité ou si tu as un budget illimité. Parce qu'en fait, c'est à la consommation de données. Tu payes un peu comme les anciens forfaits à l'époque. Tu payes ta consommation directement, sauf que ça coûte assez cher. Donc, en gros, on avait le droit à 15, 20, 30 minutes par jour d'Internet. Et moi, j'en profitais pour faire mes posts et puis pour tenir au courant à tout le monde. Puis d'ailleurs, à un moment, on a eu une panne. Je n'ai pas pu faire pendant plusieurs jours ni donner de nouvelles, du coup. Mais apparemment, ça va, les gens ne sont pas trop inquiétés.
Ils se sont dit, bon, au pire, il a coulé. Sinon, il va reposter bientôt.
Ouais, c'est ça. Genre, le moment où j'ai reposté, où j'ai revu Internet, c'était la limite. Un peu, les gens commençaient à me dire. Ouais, là, je commençais à poser une question mais ça va.
Et là, tu vois tout le monde qui cherche. Est-ce qu'il y a eu une tempête dans l'Atlantique? Mais non, pourtant.
Non. Tout allait bien. Il n'y a pas de vent.
C'est juste qu'il n'y a pas de vent.
Mais bon, même sans tempête, tu peux très bien taper un container et puis couler. Hein.
Ouais. Ou te faire taper par un orque.
Ouais, c'est vrai. Sur la fin, ça, on en parlera aussi. Bon, alors, reprenons. On était à Barbuda et on allait commencer notre traversée. Le 14 mai 2024, jour 7 transatlantique. Ça y est, on y est. C'est le grand départ. On va traverser un océan. 8h10, on lève l'ancre et c'est parti. La sortie du lagon nous laisse le temps de profiter une dernière fois de cette magnifique île qu'est Barbuda. Maintenant, direction les Açores, 2140 milles plus loin. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de vent. On commence à remonter tranquillement direction est-nord-est. On ne voit plus la terre. Ça va être comme ça pendant 2 semaines. Mes pensées s'affolent sans jamais paniquer. Je prends un quart dans la matinée. Tout le monde fait la sieste. Le bateau est silencieux. Nous glissons sur la mer plutôt calme. Il fait beau. Le temps est bon. Je suis pensif. Je passe par plusieurs émotions. La joie, la tristesse, la mélancolie, mais aussi le bonheur du moment présent. Je me sens vivant et peut-être plus que jamais. Dans l'après-midi, j'ai fini le bouquin de l'artiste Gaël Faye, Petit Pays. Je l'ai lu très rapidement, c'était stupéfiant et intéressant. Je vous conseille fortement. Pendant notre premier coucher de soleil magnifique sans voir terre, nous jouons au TTMC. Tu te mets combien ? Avec Laura et Lisa, c'était bien sympa. Puis après notre repas, nous avons entamé une partie endiablée de Coinche qui a été gagnée par Lisa et David. Encore une fois. On va changer les équipes, je crois. Ma prochaine prise de quart est à 6h du matin. Je ne me couche pas tard et espère passer une bonne nuit réparatrice.
Là, c'était ta journée.
Là, c'était ma journée, première journée de pour partir traverser l'Atlantique.
Alors, quand tu fais un quart, tu fais quoi ?
Eh bien, donc, tu prends donc un quart, c'est un moment de surveillance sur le bateau où tu es responsable de la surveillance du bateau et de ce qui peut arriver. Donc tu dois faire des checks à 360 degrés donc autour du bateau visuellement toutes les 20 minutes environ, 20-25 minutes.
Tu regardes la mer, quoi.
Ouais, c'est ça. Tu la regardes pas en continu, donc tu peux vaguer à tes occupations. Et toutes les 20 minutes, tu sors du bateau, donc peu importe le temps, et tu passes la tête au-dessus du cockpit et puis tu fais un tour à 360 degrés. Et s'il y a donc des bateaux que tu, enfin si tu vois quelque chose, eh ben tu vas adapter ta vigilance, tu peux adapter ton cap aussi si jamais tu as une trajectoire de collision, mais tu vas aussi checker sur le GPS aussi, donc s'il y a des bateaux aux alentours que tu ne verrais pas, parce que des fois il faut savoir que tu peux croiser des cargos qui vont à 18 nœuds alors que toi des fois tu peux aller à 6 nœuds, 7 nœuds, tu vois, et encore ça va, t'avances un peu. Donc ils vont pas du tout à la même vitesse que toi. Donc toi, tu peux très bien ne rien voir à l'horizon et puis d'un coup,
il arrive.
Y a un bateau qui arrive. Bon, t'as le temps normalement de le voir justement. C'est pour ça les checks visuels aussi, parce qu'il y en a aussi qui n'ont pas donc sur leur GPS. On appelle ça des AIS. C'est quand tu allumes une espèce de balise en gros et que t'es détectable. Et il y a des bateaux qui n'allument pas. Ça arrive. C'est d'ailleurs, par exemple, au Vendée Globe, c'est déjà arrivé qu'il y a partent pour le Vendée Globe. Allez, on part faire le tour du monde. Boum, première nuit, deuxième nuit, il tape un pêcheur. Pas d'AIS. Et puis du coup, la nuit, si le gars a très peu de lumière ou qu'à un moment, tu ne checkes pas en continu, en fait. Tu ne peux pas, c'est pas possible. Enfin, surtout quand tu es tout seul sur un bateau pour le Vendée Globe, tu vois. Donc, il y a ce truc-là. Et puis aussi, ça dépend des moments. Donc si tu fais un quart la nuit, tu es vraiment tout seul, tout le monde dort. Des fois, si tu fais un quart en début, milieu de matinée, on va dire, là, tu peux déjà avoir quelqu'un qui se lève. Ou la journée aussi, on n'avait pas de quart établi. On se partageait en gros la nuit en quatre, et puis même on faisait un roulement, il y en avait qui recommençaient un petit peu. Puis après, le soir, ça revenait. Mais la journée, c'était tout le monde était responsable un peu de la surveillance. Bon, des fois, il y avait quand même quelqu'un qui était un peu plus, mais il n'y avait pas vraiment d'horaire fixe. C'était un peu, on s'arrangeait, quoi. Et puis du coup, donc, pendant les quarts où tu es tout seul, moi, je lisais... Je regardais un film ou des séries que j'avais téléchargées avant. J'écoutais de la musique, j'écrivais, du coup, aussi. Et puis aussi, tu fais rien, des fois. Et puis tu regardes la mer, si tu peux, parce que bon, des fois, la nuit, tu peux pas trop, quoi. Mais t'écoutes, et puis tu gères les voiles, en fait, aussi. Tu gères le bateau, quand même. Tu vois, faut prendre le bon cap, faut avoir les voiles bien réglées, faut pas qu'elles claquent, faut être attentif, faut essayer de prendre la meilleure position possible par rapport au vent pour avancer le plus vite possible.
Ouais, donc ça prend un truc quand même.
Mais ouais, tu te fais jamais chier.
Ouais.
Mais moi, littéralement, un mois et demi.
Au contraire, je pensais que c'était très. C'était plein de tâches, plein de micro-machins.
Oui, ouais, en fait, bah pendant ton
cas. Tu barres un peu
Non. Non, en vrai, tu barres pas quand t'es sur la traversée. Tu vois, quand t'es entre les îles, pendant les Antilles, là, on barrait, tu vois. Pas tout le temps, mais
là,
on pouvait barrer.
En mode automatique, il y a un cap,
hop terminé. Là, et puis de temps en temps, tu fais une réajustation de cap, et puis là, ouais, tu peux prendre un peu la barre, mais en général, tu fais plus même, plus, moins, en termes de degrés.
Oui, c'est ça, ouais.
Et s'il y a des fois où tu peux prendre la barre, c'est quand il y a des sargasses. Donc les sargasses, c'est des algues, qui est un peu un souci d'ailleurs dans les Antilles, et puis qui proviennent du Brésil, en fait. Et qui sont des
rouges là.
Ouais, c'est ça. Et qui sont un peu toxiques en plus. Bon, c'est pas le problème sur le bateau. Elles sont toxiques que quand elles sont à terre et qu'elles se mettent à sécher. Là, elles dégagent un gaz toxique. Mais
qui tue.
Ouais.
Comme les algues vertes en Bretagne.
Exactement.
Rappelons-le. Voilà. Exactement. Et elles ont la même origine. De surpollution,
ouais. Ouais, ça,
du golfe,
ouais.
Du Mexique en l'occurrence, aux pesticides et
golfe du Mexique ou golfe des États-Unis,
golfe du Mexique. Merde alors,
c'était un Trump. Non mais du coup, ouais, il y a ces algues et puis des fois en fait t'as des énormes plaques et faut les éviter parce que des fois en fait on faisait tourner le moteur quand même, donc des fois tu le fais tourner un peu presque à vide pour recharger la batterie. Donc là, tu consommes vraiment pas beaucoup d'essence. C'est juste pour maintenir ta batterie au-dessus d'un certain niveau pour pas qu'elle se décharge plus et puis qu'elle finisse par mourir lentement. Et puis des fois, bah, en fait, il n'y avait pas de vent. Bah, du coup, tu allumes les moteurs et puis tu avances. Parce que des fois, il y avait vraiment pétole, quoi. Pas un brin d'air.
Le vrai désert, quoi. Là,
ouais, c'est ça.
Et rien ne bouge.
Ouais.
Il n'y a aucun animal.
Si, un peu. C'est ça qui est quand même magnifique des fois, c'est que les moments où il n'y a pas de vent, des fois, tu as un oiseau qui vient faire un tour autour de ton bateau et puis qui vient flotter juste au-dessus de l'eau, qui est tout calme. C'est magnifique. Ouais.
Et qu'est-ce qu'il fout là ?
Eh ben, lui, il est là, il pêche, il fait sa vie. Il plane, c'est un
même
petit
des
peu,
endroits
tu vois,
où tu n'as rien à pêcher, justement, s'il n'y a pas...
Bah ouais, mais il y a des oiseaux qui peuvent traverser, tu vois, l'Atlantique, et qui sont pas migratoires et tout, c'est juste leur...
C'est immense terrain de...
Ouais, c'est ça. Et en fait, ils peuvent se poser sur l'eau, quoi, du coup...
Ils se reposent un peu.
Ouais, ils se reposent un peu. Et ouais, tu les vois un peu danser là, autour du bateau, quoi, c'est assez joli. Puis sinon, des dauphins, des fois aussi. Puis des fois, on a eu la chance d'en voir justement quand il y avait mer calme ou quoi. À un moment, j'ai même failli aller me baigner avec eux alors qu'on était encore au milieu de l'Atlantique. Et puis, je ne l'ai pas fait parce que...
L'eau est froide.
Bah, c'était une des raisons, mais ce n'était pas la principale raison. C'était plutôt parce que le capitaine dormait et je pensais qu'il allait être un peu contre que j'arrête le bateau et que j'aille à l'eau, quoi. Mais en fait, il m'a dit, après coup, il m'a dit, mais t'aurais dû, fallait y aller, tu le sentais, vas-y. Et du coup, j'ai fait, merde. Et bon, je me suis récalculé, effectivement. En fait, il y avait les dauphins qui étaient là. Et puis, c'est un moment où j'ai senti une espèce de communion, tu vois, avec l'animal. Où vraiment, j'étais à l'avant du bateau. On était deux. Il y avait ma pote Lisa qui était avec moi. Et il jouait avec nous. Il sautait juste à l'avant. Et il y en avait un ou deux qui sont passés et qui nous regardaient. Mais vraiment, où je pouvais voir sa pupille. Tu vois, enfin, on se regardait, quoi, vraiment. Et je sentais qu'il y avait une espèce de... Tu vois, il était très curieux, quoi. Et du coup, j'avais envie de passer à l'avant du bateau, tu sais, d'essayer d'aller le toucher, tu vois. Bon, ça, c'était un peu dangereux. Parce que si je tombais là, c'était quand même, ça pouvait être dangereux. Du coup, je me suis dit, bon, pas ça, mais putain, j'arrêterais bien le bateau. Parce qu'il n'y a pas de mer, là. C'est tout calme, c'est tout plat. Rien, en fait, c'est comme une piscine, tu vois. Enfin, bon, avec 5000 mètres de fond.
Peut-être. Enfin, on s'en fout. Ouais. On ne sait pas. Sans ta papier.
C'est ça.
C'est tout. C'est le principe. Ouais, ouais. Tu sais pas vraiment. Il y a des endroits quand même qui sont des. C'est pas des hauts fonds, mais où ça remonte bien. Et puis d'autres endroits où c'est très creux, l'Atlantique. Enfin,
Oui. Mais quand même. Là,
des fois c'est 3000, des fois c'est 1000, des fois c'est 5, c'est 6.
Ouais. C'est ça. Mais c'est plutôt en général quand même 3, 4, 5000, tu vois.
Ouais.
Genre, tu remontes souvent un peu. D'ailleurs, c'était marrant, ça, c'était Lisa qui donc, était avec nous. Elle, à un moment où elle a capté cette info, tu vois, fait attends, pardon, 5000 là, en dessous, là. Là, sous les quelques centimètres de coque qui nous séparent de 5000.
La hauteur du Mont Blanc.
Et elle n'en revenait pas, tu vois, c'était. Ah oui. Ouais. C'était marrant. Et un coup, je me suis baigné quand même, où je me suis attrapé à l'échelle à l'arrière du bateau, et puis je me suis un peu baigné pour me doucher, quoi, en fait. Un peu.
Pour me doucher, non, mais c'est ça.
Ouais, après, je me suis rincé très vite fait avec un petit peu d'eau douce, mais ouais, ça faisait ça, ouais, j'avais trop besoin de prendre une vraie douche, quoi, peut-être entièrement mouillé.
Et oui, et vous, c'est vrai qu'on se la pose pas cette question, mais du coup, tout le monde passe un moment donné dans l'Atlantique pour vivre cette sensation-là, ou il y en a
non, je suis le seul qui l'ai fait. En général, c'est un truc qui peut se faire. Bah si, je se lave autrement, tu vois. Mais moi, à un moment, j'avais besoin, ouais, de. Bah, j'avais envie aussi d'aller dans l'eau, tu vois, de le faire, ce truc-là, de se dire, ouais, je me suis baigné au milieu de l'Atlantique et il y avait 5000 mètres en dessous, quoi. Tu vois, ça c'était marrant quand même comme sensation. D'ailleurs, c'était un peu flippant quand même aussi. Mais j'avais envie de le vivre, tu vois. Il y avait un petit truc d'adrénaline, petit machin. Et puis aussi, ouais, j'avais besoin de mouiller totalement vraiment bien. Mais en soi, tu peux aussi le faire. En fait, tu prends un seau, tu remplis ton seau, tu prends ton seau, par-dessus toi, et puis t'es trempé aussi. Hein. Mais genre, sauf qu'au bout, en fait, au bout d'un moment, tu le fais pas vraiment parce qu'en fait, il caille. Alors, du coup, tu vas pas le faire. Et puis, tu vas pas le faire non plus dedans. Enfin, t'es pas. Donc. Tu te rinces un petit peu avec des lingettes ou alors avec un petit peu d'eau douce à un moment où tu te barbotes un peu, barbouilles. Pardon.
C'est aussi quelque chose qu'on ne se dit pas systématiquement, mais là, finalement, tu pars de la Caraïbe. Bon, on se dit, voilà, les Antilles, il fait beau, il fait chaud. De l'autre côté, c'est les Açores. On a à peu près la même idée.
Ouais.
Mais en fait, entre les deux, c'est extrêmement froid.
Mais même les Açores, hein. Les Açores, ouais. c'est Bretagne, mais pas Bretagne en juin, tu vois, parce qu'on est arrivé en juin. C'était Bretagne en mars, quoi.
Bah vas-y, lis-nous quelques jours, qu'on avance alors.
Ah oui, alors.
Avançons.
15 mai 2024, jour 8, transatlantique. Cela fait maintenant une semaine que nous avons quitté la douce baie du Marin. Nous en sommes maintenant au deuxième jour de traversée vers les Açores. La nuit a été compliquée pour moi. J'ai l'impression de n'avoir pas fermé l'œil de la nuit, même si je suis resté dans mon lit tout ce temps durant. Je pense tout de même m'être assoupi. Vers 5 heures, j'entends le moteur s'allumer. Il ne doit plus y avoir de vent. À 6 heures, je prends mon car. Je croise David, qui a l'air dégoûté des conditions, qui me donne quelques instructions et qui part se coucher. Vers 7 heures, je sens les voiles vaciller. Je prends pour la première fois la décision de changer de cap tout seul. On passe de 77 degrés est à 47 degrés nord-est. Les voiles vont mieux, je suis soulagé. Mais finalement, il fallait plutôt continuer sur cette lancée pour attraper le vent. Le car est passé à une vitesse, j'ai cru qu'on avait changé d'heure pendant celui-ci. J'ai commencé à lire « Le vagabond des mers du Sud » de Bernard Moitessier. Pour le moment, c'est passionnant. Je remercie mon ami Pêche pour ce partage. Il m'accompagne durant mon voyage. La journée se poursuit. Il fait bon, la brise est agréable, mais trop légère pour nous porter. Nous sommes donc accompagnés de vrombissements du moteur pendant toute la journée, dans l'espoir de remonter afin de trouver notre cher ami le vent. Puis, dans l'après-midi, nous avons une mission. Décrocher la balancine, un bout coincé en haut du mât à 20 mètres de hauteur. Je me propose de monter, je savais que ce serait sport et que j'allais galérer, mais jamais je n'aurais pensé à ce point. La houle est plutôt espacée, mais elle fait tout de même de belles vagues. Je me retrouve balancé de droite à gauche pendant ma montée. Il faut que je soulage le plus possible mon poids à l'aide de mes bras, car je n'arrive pas à bien m'agripper au mât avec mes pieds. Arrivé en haut, mes muscles sont tétanisés, je lutte au-dessus d'une infinité bleutée. Je suis terrifié, mais concentré, et je ne panique pas, j'ai une mission, faire descendre cette foutue balancine. Je l'attrape enfin, la fais descendre, mais une fois ma descente entamée, celle-ci remonte en haut du mât. Moi qui étais soulagé, je me retrouve à regrimper. J'arrive encore une fois à la rattraper, Et cette fois, je ne la lâche pas. Tu descendras avec moi. En passant, j'avais pris mon téléphone pour immortaliser le moment, mais hors de question de le sortir. Ouf ! Enfin arrivé en bas. Les bras m'en tombent. Après m'être reposé et avoir partagé un repas bien copieux avec notre équipage toujours au top, je prends mon car à 21h. Il n'y a pratiquement toujours pas de vent. Mais pas de nuages non plus. Par contre, se dévoile à moi une demi-lune et un ciel scintillant. Il est minuit. Lisa prend le relais et me permet de rejoindre les bras de Morphée.
Come on, let's meet up in the vibe, here is the positive wave. Everyone is in the tribe, here is the positive wave. Time is to jump and run wild, no matter how you behave. Back to the roots, follow the guide, deep inside you will find the rave. In a positive wave, man, positive wave. In a positive wave, man, positive wave.
À 20 mètres là.
Ah ouais, c'est flippant.
Oh là 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 là.
J'ai pas le vertige hein, pourtant. Mais en fait, on s'était pas très bien positionné par rapport à l'orientation des vagues. Du coup, je balançais vachement en fait. Puis du coup, l'amplitude en bas où t'as le bateau qui bouge un peu en haut, tu bouges sur 3-4 mètres d'envergure. Quoi. Puis t'es là, tu tapes contre le mât. Moi, j'avais pas le. C'est la première fois que je montais au mât, du coup, j'avais pas de bon équipement pour le faire, tu vois bien. J'avais un short, mais pas assez épais, du coup, ça me cisaillait un peu les jambes.
Le baudrier.
Ouais, c'est ça, le baudrier me cisaillait. J'avais pas bien positionné une sécu, un truc. Du coup, j'étais pas à l'aise, quoi. Après, je suis retourné, ça s'est bien passé, mais là, j'étais pas à l'aise et je me suis retrouvé en haut et je me suis littéralement effritu. Non, pas littéralement.
Et après, t'étais préposé à la montée au mât, du coup, sur la suite.
Non, on y a tous été sauf Laura qui, elle, avait un vrai souci de vertige. Mais on a eu des vrais problèmes. Du coup, on a dû y monter plusieurs fois et ça nous a bien fatigué d'ailleurs. Parce que c'est fatigant. De faire monter quelqu'un, c'est fatigant. Et moi, la première fois que j'y suis allé, j'avais essayé de soulager le plus possible la personne qui me faisait monter. Mais du coup, en fait, je me suis buté aussi, quoi. Alors que j'aurais pu faire un entre-deux un peu plus intelligent, un peu à des moments plus soulagé quand je pouvais, à des moments où je ne pouvais pas trop, me laisser monter. Parce que l'autre qui te fait monter, ça te soulage un peu, mais pas tant que ça. Enfin, c'était assez sport.
Ouais, et puis oui, cet effet de vide total là. Parce que quand t'es sur le bateau, t'as quand même toujours ton bateau, ton truc.
Ouais, ouais.
Il fait partie de ton horizon, quoi.
Ouais, c'est ça, exactement. Et ouais, là, t'es très peu sans. Tu peux pas regarder à 360 autour de toi et puis t'as un truc qui te cache la vue à un moment. Ouais. Et alors que là, ouais, t'es tout en haut et puis là, t'es là. Et puis c'est magnifique. Ouais, c'est vraiment. Tu te retrouves à une certaine hauteur au milieu de rien. Enfin, sur une aiguille, tu vois. Enfin, là, tu peux voir que la Terre est déjà ronde pour les platistes.
Faites du bateau.
Tu l'as vu, le gars qui est allé en Antarctique pour prouver que la Terre était plate. Et en fait, il est arrivé en Antarctique, un influenceur, un YouTuber. Et en fait, il est arrivé et puis il a fait, je me suis gouré, merde. Des fois, dans la vie, il faut apprendre qu'on a tort. Le gars est allé en Antarctique pour se rendre compte qu'il s'était gouré, quoi. Mais bon, au moins, il a admis, été dans le déni. Derrière, il a admis devant tout le monde qu'il s'était complètement gouré, quoi.
Mais c'est vrai qu'en mer, on voit bien cet effet, même quand on est au bord de la mer, voilà. On voit bien que ça... Sinon, on verrait la Corse, par exemple. Hein,
oui, mais on peut la voir. On peut la voir, des fois.
Oui, on peut, des fois.
Mais
par reflet. Voilà. Un autre jour où t'en faisais que deux?
Non, on en faisait trois.
Allez.
Un troisième jour.
Vous êtes toujours dans un Diwa en transat avec Romain.
Alors, oui. 16 mai 2024, jour 9, transatlantique. Il est 8h30 environ lorsque je me réveille. La nuit était agréable, mais j'ai toujours du mal à dormir. En même temps, le moteur vibromasseur n'aide pas trop. Je retrouve David et bonne nouvelle, il y a enfin un peu d'air. Nous montons donc notre ami la grand voile et son petit frère le solette, voile d'avant. Ça réveille et ça fait du bien. Lorsque j'écris ces lignes, nous devinons au loin une tache blanche. Nous ne rêvons pas, c'est bien un autre voilier là-bas, le premier depuis Barbuda. Tout peut devenir une simple joie, de même que l'observation du petit oiseau, un puffin fuligineux, qui nous accompagne depuis une heure maintenant, alternant vol plané élégant et repos posé sur l'eau. La journée se poursuit, mais le vent nous fuit. On fait tomber les voiles et on monte le Genaker, voile d'avant avec une grande superficie. Toujours pas, ça ne veut pas. On rallume les moteurs et on continue plein est pour aller chercher ce bon vieux éole. Petit point sur l'eau, nos réserves s'épuisent. Nous sommes encore larges, mais il faut faire attention. Prudence et mer de sûreté. Après probablement notre plus beau coucher de soleil depuis notre départ, accompagné des notes de ukulélé de Laura en cours d'apprentissage, nous entamons une partie de coinche de plus. Cette fois, les équipes sont tirées au hasard. Je suis avec Laura, encore une fois. C'est un signe, on va sûrement les battre. Et ben non, encore une défaite, ça en devient un poil frustrant. Un peu plus tard, la lune et les étoiles sortent pour nous réconforter en début de soirée. Il est 22h, je vais me reposer avant mon quart à minuit. J'arrive à m'assoupir au dernier moment, puis mon réveil sonne, c'est l'heure. Je croise David, il n'y a toujours pas de vent. Le sommeil me rattrape, je fais donc 2-3 petites siestes en mettant mon réveil toutes les 20 minutes pour faire un check à 360 degrés pour voir s'il y aurait un obstacle sur notre chemin. Lorsqu'il est environ 2h, je m'aperçois en relevant la tête vers le ciel que la lune a disparu. C'est donc avec émerveillement que je découvre la Voie lactée au-dessus de nous. En 20 minutes, je vois 4 étoiles filantes. Puis, Lisa, comme à son habitude, vient prendre mon relais et me permet de retrouver mon lit vibrant. Il y a toujours le moteur, je vous le rappelle. Cette fois, je m'endors facilement.
Ça doit être un truc quand même d'avoir un bateau à voile et finalement de faire que du moteur, quoi.
Ah, ça faisait chier, en vrai.
Et là, il faut des grosses réserves, quoi.
Bah ouais, on avait... Je sais plus combien on avait, mais on m'a posé la question récemment, d'ailleurs, c'est marrant. Mais je sais pas, on devait avoir 300-400 litres d'essence.
Ah oui, voilà, c'est ça, j'allais dire. C'est un
mais non, mais en fait, en plus, je dis ça, mais en fait, la dernière fois, quelqu'un m'a demandé, mais j'ai pensé qu'au bidon, mais je pensais pas au réservoir. En fait, on avait bien plus que ça, peut-être même 800 litres. Je sais pas combien exactement. Mais ouais, bah, c'était pas prévu d'en faire autant. Après, ça dépend. En fait, il y a plusieurs manières de faire de la voile. Nous, là, c'était. On avait un objectif de durée, quoi. On devait arriver avant. Il faut ramener le bateau. Il y a la saison Corse qui va commencer pour notre capitaine à une certaine date. Il doit préparer un peu le bateau avant ça. Donc, on avait un timing. Et de base, on avait prévu de prendre plus large pour être plus cool, justement. Sauf qu'au début, notre départ, il a été un peu différé. Derrière, on a eu un problème de grand voile, on a perdu une journée, on a dû la changer. Après, on n'avait pas de vent au début, du coup, tu te retrouves à faire du moteur, quoi. Parce que tu pourrais ne pas faire de moteur. Bon, il y a des journées où tu reculerais même carrément avec le courant. Donc ça peut être hyper frustrant, quoi. Donc on n'a pas vraiment vécu ça, mais on a vécu la frustration, ouais, de pas pouvoir mettre les voiles, quoi, des fois. Pas tout le temps, hein. Là au début on galère bien. Il y a des moments où ça viendra, où on ira le toucher ce vent, mais pendant un moment on alternait voile, pas assez de vent, bon bah tu baisses, et puis tu dois la baisser la voile aussi parce qu'en fait elle claque, et du coup elle pourrait se déchirer, quoi. Du coup tu la redescends, et puis là tu sens un peu d'air, ah tu la remontes, ah non en fait, non, que dalle, donc tu la redescends, et puis c'est fatigant ça. Puis en plus de ça, à force de la monter et de la descendre, et ben en fait il y avait ce qu'on appelle des coulisseaux, donc qui sont attachés au mât et puis qui coulissent donc le long du mât avec la grand voile. Ben ça, il pétait un peu petit à petit, donc il fallait les changer. Puis en fait, il coinçait un peu et puis machin. Et puis en fait, c'était un peu dans une boucle comme ça, quoi. Tu répares un truc, t'as un autre problème, t'as un autre machin. Et puis, mais ça fait passer le temps, quoi, et ça.
Vous avez jamais rattrapé ce voilier ?
Ce voilier devant là, qu'on a vu. Je ne sais pas s'il était vraiment devant, il était au loin. Est-ce qu'on l'a... Je ne sais pas, je ne saurais pas te dire. Le premier, je me souviens le voir, tu vois, mais je ne me souviens pas de...
Parce qu'en fait, c'est quand même un tracé qui est hors des routes commerciales ou des routes classiques.
Eh bien, au début, ouais. Au début, surtout que nous, au lieu de remonter plein nord, comme la plupart le font, on a pris plutôt une option est-nord-est. Donc plutôt presque une trajectoire directe jusqu'aux Açores, alors que normalement tu remontes un peu nord, tu vas choper du vent et tu redescends vers les Açores. Nous, vu les météos qu'il y avait, les schémas météo qu'il y avait, etc., on avait pris plutôt cette option, qu'on a d'ailleurs un peu changé. Et puis d'ailleurs, tiens, à un moment, je dis, je change de cap tout seul, puis après je dis, au final, on n'aurait peut-être pas dû faire ça. En fait, 3 jours après, j'ai carrément bien fait de faire ça parce que on aurait loupé une poche d'air à un moment qui nous a quand même emmené un petit peu. Bon, je ne savais pas spécialement, mais en voyant les schémas météo, je m'étais dit quand même que ça pouvait être intéressant de faire ça. J'en oublie ta question de base.
Oui, les routes commerciales, le fait de croiser d'autres bateaux.
Oui, ouais, donc au début, donc nous, vu qu'on n'avait pas pris nord, donc bon, déjà, t'es pas sur une route commerciale, mais à la limite, tu peux croiser pas mal d'autres voiliers qui peuvent faire la même trajectoire que toi. Là, on était parti un petit peu tard dans la saison, donc il y avait un peu moins de trafic aussi. Et vu qu'on a pris Est-Nord-Est, donc très peu de gens dès le départ. Et après, par contre, au bout d'un moment, tu reprends la route en fait, qui arrive du coup aux États-Unis, Canada. Et là, tu commences à croiser des cargos un peu qui vont en Europe, même descendre, je sais pas, dans le sud, peut-être en Afrique du Sud, je sais pas trop. Mais ouais, notamment, essentiellement en Europe. Et là, tu te mets à croiser un peu de monde. Et puis, plus tu t'approches des Açores, plus ça fait un petit couloir où les gens se retrouvent là-bas en fait. Et à la fin, on voyait plusieurs voiliers autour de nous, quoi. Enfin, au moins sur le radar, et puis même à la fin de vue. Et puis, on a même fini par croiser un voilier. On s'est échangé quelque chose à une journée des Açores. Je tease un peu encore une fois.
Bah, vivement la suite. On te retrouve donc la semaine prochaine.
Ouais, c'est ça.
Pour la suite dans la rubrique info de Mallory. Et puis bientôt en série plus resserrée à retrouver sur Radioa, le site.
C'est ça, exactement.
Merci Romain.
Merci à toi.